Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Manuel Valls, ancien Premier ministre, député de l'Essonne. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous. Bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Pour vous interroger à mes côtés aujourd'hui, Christophe Jakubicin de TF1 et Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour à tous les deux. Et puis, dans cette émission, séquence droite suite, au cours de l'émission, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL nous rejoindra pour vous relayer les questions, interrogations des téléspectateurs et auditeurs de RTL. Alors, beaucoup de questions sur les dossiers que vous abordez, mais d'abord des questions sur l'actualité et notamment le plan qui a été annoncé hier par le président de la République pour lutter contre les violences faites aux femmes, une panoplie de mesures. Est-ce que vous, Manuel Valls, quand vous étiez au gouvernement, vous vous dites pas aujourd'hui que vous avez été un peu trop laxiste sur cette question? Il y a eu des affaires, comme l'affaire Baupin, comme l'affaire Baylet, de votre ancien ministre qui avait été accusé par une de ses anciennes collaboratrices d'une agression sexuelle. Est-ce que vous n'avez pas été naïf sur la question du temps que vous étiez à Matignon?
Non, parce que quand j'étais ministre de l'Intérieur ou Premier ministre avec les ministres qui ont eu en charge ces questions-là, Najat Vallaud-Belkacem, Pascal Boitard, Laurence Rossignol, nous avons mobilisé déjà l'administration, je pense à la police ou à la gendarmerie, pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Mais la parole ne s'était pas libérée comme elle se libère
aujourd'hui.
Absolument.
Mais ça, c'est quelque chose qui nous concerne, qui vous concerne, qui concerne toute la société, et il faut s'en féliciter. Parce qu'il y a eu l'affaire Weinstein, parce qu'il y a eu Hollywood qui a été concerné, il y a eu une déferlante, une libération de la parole des...
Enfin, des associations parlaient. Est-ce qu'on les entendait suffisamment à cette époque-là?
Mais vous, nous, peut-être pas suffisamment. Mm-hmm. Moi, ce qui me frappe, bien sûr, la parole se libère quand il s'agit de personnalités connues dans le monde politique, dans la presse, dans le monde du cinéma. Ce qui m'intéresse, et c'est aussi l'élu local qui vous parle, c'est la violence que subissent les femmes au quotidien, dans leur foyer, dans leur quartier. Une femme, tous les trois jours, meurt sous les coups de son conjoint ou de son ancien conjoint. C'est cette réalité, quotidienne contre laquelle nous avons lutté au pouvoir. Mais moi, je me félicite bien sûr que le chef de l'État, que le président de la République, prenne à bras le corps ce sujet-là, et en face, par ailleurs, une grande cause, mais pas beaucoup, seulement d'un moment.
Beaucoup de mesures, peu de moyens, dit l'association.
Oui, mais ça, c'est toujours les critiques, on verra progressivement les moyens, mais d'abord, il y a une mobilisation de la société, il y a une prise de conscience, il y a la poursuite de ce que nous avions engagé avec Laurence Rossignol, je pense à la formation des professionnels, c'est vrai dans les crèches, c'est vrai dans les écoles, c'est vrai bien sûr dans les commissariats et les brigades de gendarmerie, c'est vrai pour les travailleurs sociaux ou les personnels dans les collectivités territoriales. Il y a des choix à faire en matière de justice. Nous l'évoquons peut-être sur l'âge de consentement ou sur le temps de la prescription.
Pour donc, vous, c'est quoi l'âge de consentement, justement, Manuel? Est-ce que vous avez dit le président dit 15 ans.
Le président dit qu'il y a un débat qui s'ouvre et que sa préférence, c'est 15 ans. C'est la mienne aussi, parce que je pense que c'est la logique et la cohérence par rapport à l'âge de la sexualité.
En matière de harcèlement, vous parliez de la violence au minimum verbale dans les quartiers. Ce nouveau délit d'outrage sexiste, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que ça ne va pas alourdir l'arsenal juridique qui est déjà assez copieux?
Oui, mais la loi a un caractère symbolique. Alors, il faut expérimenter, il faut évaluer, il faut en discuter avec les professionnels, c'est-à-dire avec les magistrats comme avec les forces de sécurité. Mais là aussi, je pense que c'est important de rappeler les règles, les lignes jaunes ou rouges qu'on ne peut pas transgresser. Et c'est important que chacun sache dans la société que le harcèlement, qu'un propos sexiste, je ne parle pas de ce qui est déjà considéré comme un délit, qui est passible de la prison quand il s'agit de la violence sexuelle, quand il s'agit d'un viol. Et là, il faut non seulement que la parole se libère, mais que l'accueil se fasse dans les meilleures conditions possibles pour que cette parole se libère, puisque la parole, souvent, ne s'est pas libérée. Il a fallu ce choc qui vient d'outre-Atlantique pour qu'elle se libère, pas en France uniquement, qu'elle se libère en Grande-Bretagne, il y a des ministres qui ont dû démissionner,
en Suède,
en Italie, en Espagne, partout.
Est-ce qu'il y a pas un risque de délation débridée? C'est ce qu'a dit le président hier, il a mis en garde contre une culture de la délation. Est-ce que vous craignez cela aussi ou pas?
Mais d'abord, il faut se féliciter de la libération de cette parole. C'est ça qui compte, parce que sans la libération de cette parole, nous n'en serions peut-être pas là. Et ensuite, il faut évidemment, comme à chaque fois, de la maîtrise. Et puis moi, je pense à ces femmes qui parlent, mais dont les faits qu'elles dénoncent sont prescrits, donc il va falloir les accompagner. L'accompagnement des victimes est quelque chose de fondamental. Avec Juliette Mayadel, qui est là, qui était secrétaire d'État aux victimes, nous avions créé ce secrétariat d'État aux victimes parce que nous pensions bien sûr aux victimes du terrorisme. D'abord,
vous regrettez qu'il fallait accompagner, ce secrétariat
mais
d'État.
Mais pas seulement, oui. Parce que la victime de la violence, et la violence faite aux femmes est une violence insupportable, ces victimes, il faut les accompagner.
Vous pensez qu'il devrait y avoir de nouveau un secrétariat d'État aux victimes ?
Oui, moi je pense qu'il aurait fallu garder ce secrétariat d'État aux victimes ou cette délégation interministérielle auprès du Premier ministre. Mais enfin, ce qui compte, c'est que tous les ministères accompagnent bien sûr ces victimes, mais j'aurais préféré qu'on garde ce secrétariat d'État, qui est une belle idée, parce que malheureusement, on voit bien que ça reste un sujet dans nos sociétés, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, ces discours, ces actions, ne mettront pas fin à cette violence. Vous savez qu'un des pays qui a le pris de plus à bras-le-corps ce sujet, c'est un pays que je connais bien, qui est l'Espagne, avec des artistes qui se sont beaucoup mobilisés, des femmes qui ont subi ces violences. On peut agir, on parle, on découvre cette situation, mais malheureusement, ces violences, elles subsistent, c'est vrai, chez nos voisins outre-Pyrénées, c'est vrai aussi, bien sûr, chez nous. Mais c'est important, parce que je pense, voilà les sujets qui intéressent les Français et qui mobilisent vraiment une société. C'est ça, être progressiste, que d'être aux côtés de ces femmes qui subissent ces violences.
Un autre sujet, Guillaume Roquette.
Oui, certaines organisations féministes en pointe sur ce dossier militent pour une écriture inclusive, c'est-à-dire avec une féminisation un peu systématique. Est-ce que vous considérez que ça aussi, ce serait un progrès ?
Bon, la féminisation de l'écriture, la lutte contre la domination machiste et de l'homme sont des réalités. On m'a dit hier qu'il n'y a qu'une seule station de métro à Paris, vous vérifierez, qui porte le nom d'une femme. Ça doit être Louise Michel. Donc
il faut les débaptiser, les stations
de
métro ?
Non, je ne dis pas ça. Et je dis que c'est le fruit de l'histoire et de ce qu'a été la domination masculine. Pouvons vite nous mettre d'accord ici autour de la table, les quatre hommes que nous sommes. Nous et heureusement, il y aura quelqu'un qui nous rejoindra. Non, je n'apporte pas une critique.
Je reviens à l'écriture inclusive.
Non, vous êtes pour, vous êtes contre. Ce qui a été dit très clairement par le ministre de l'Éducation nationale, qui parle souvent bien et juste, va dans le bon sens. Et donc je suis sur la même position. C'est non, pour faire bref.
Et par exemple, Paris qui veut que les journées du patrimoine s'appellent désormais les journées du matrimoine, ça vous semble être une forme d'écriture inclusive?
C'est le genre de proposition qui dévoie, me semble-t-il, un combat féministe. Moi, je suis pour le féminisme, je suis pour un nouveau féminisme. Je me retrouve avec Caroline Fourest et Elisabeth Badinter pour défendre le droit des femmes, pour le féminisme. Mais le ridicule peut tuer de beaux combats.
Donc, on a compris que le matrimoine, ça tue le combat. Autre sujet d'actualité dans la semaine, il y a eu un remaniement gouvernemental assez technique.
Avec l'entrée d'un député socialiste, Olivier Dussopt, est-ce que c'est une forme de recentrage vers la gauche?
Député PS de l'Ardèche, qui était l'un de vos proches, porte-parole de votre campagne à la primaire, Olivier Dussopt.
Et qui est un garçon qui a plein de talents, qui connaît la réalité du terrain, l'Ardèche, et qui sera utile au gouvernement de la France.
Il a été exclu du PS immédiatement.
Et oui, ça va vite, oui.
ça va au moins.
Mais ça va plus vite qu'au Républicain.
Non, ce que je crois, c'est
Emmanuel Valls.
Plus sérieusement, c'est que la décomposition de la vie politique, ou la recomposition, si je veux prendre un mot plus positif, se poursuit et va se poursuivre avec incontestablement de nouveaux clivages. Nous en aurons un sans doute bientôt, qui est celui de l'Europe, et donc de la place de la France, nous l'évoquerons peut-être, dans l'Union européenne, et c'est essentiel avec le calendrier du Brexit, avec la crise politique en Allemagne, avec ce qui se passe en Espagne. On voit bien, sur la base de ce que le président de la République a dit il y a quelques semaines à la Sorbonne, qu'il faut reconstruire le projet européen, et ça sera un sujet important dans notre débat national. Donc cette recomposition, elle se poursuit. Et puis,
justement, ce matin, on a appris l'adhésion à La République En Marche de deux ministres, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et puis de Thierry Soler, ancien LR constructif. Est-ce que ça vous donne des idées ?
Je vais poursuivre, mais je vais évidemment vous répondre. Moi, ce qui me paraît essentiel aujourd'hui, et c'est ça qui me guide, c'est le redressement du pays. C'est la France, c'est ma priorité. Et je pense que dans le monde instable dans lequel nous sommes, avec ces défis pour l'Europe, avec nos propres défis économiques, sociaux ou sociétaux que nous connaissons, nous devons tout faire pour la réussite du pays. Et je considère qu'il faut que le président de la République et sa majorité réussissent. Et il n'y a rien de plus insupportable, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas s'opposer, bien sûr, mais il n'y a rien de plus insupportable que le sectarisme. Et on le retrouve notamment à gauche. y a au sein du Parti Socialiste et dans la gauche, cette gauche revancharde ou nostalgique, et enfin, au fond, et on le voit bien...
Qui exclut les... Olivier Dussopt, par exemple.
Oui, tous ces commentaires sur l'entrée d'Olivier Dussopt il y a quelques jours au gouvernement...
Oui, il a voté contre le budget il y a quelques jours.
Ou ce que j'ai eu à subir il y a quelques mois. Tous ces sectaires qui parient sur l'échec. On s'oppose par principe à ce que fait Emmanuel Macron. Non, dans bien des domaines, c'est la poursuite de ce que nous avions engagé. La politique pro-entreprise de redressement du pays va dans le sens de ce que nous avions engagé, le pacte de responsabilité, le CICE, la baisse des impôts, je l'avais engagé, c'est vrai pour l'impôt sur le revenu, c'est vrai pour l'impôt sur les sociétés, la loi travail, si vous me permettez, qui avait déblayé le sujet, il va plus loin, il change, il modifie, il y a des réformes importantes qui vont être engagées.
C'est vous qui avez tracé la voie à Emmanuel Macron, à vous entendre.
Mais beaucoup de choses ont été faites avec lui, par ailleurs, quand il était secrétaire général adjoint à l'Élysée, ou quand il était ministre de l'économie. Et puis, il a évidemment... son programme, son projet qu'il a présenté devant les Français. Mais à un moment où nous renouons avec la croissance, situation économique mondiale, européenne, avec le niveau de l'euro, le niveau du carburant, du pétrole, les taux d'intérêt particulièrement bas, et tout ça est dû aussi à une politique intelligente de la Banque Centrale Européenne, il y a aussi les effets de ce que nous avions engagé, que nous n'avons pas assez assumé quand nous étions au pouvoir. Il y a ce qui a été engagé par Emmanuel Macron, et puis un climat de confiance qui, me semble-t-il, est favorable au niveau des entreprises comme des consommateurs. Eh bien, il faut souhaiter la réussite. Olivier Dussopt fait ce choix. Je m'en félicite. Et donc,
et vous, alors, est-ce que vous allez au bout de votre démarche ?
Il faut clarifier les choix et soutenir l'action du président. Vous êtes en marche ?
Adhérer, est-ce que vous allez adhérer
d'abord,
en marche ?
Je suis au groupe majoritaire, oui. Apparenté au groupe majoritaire. Disons les choses peut-être autrement. Je pense qu'il y a un espace qui est occupé par des intellectuels, par des syndicalistes, par des gens qui militent dans des associations, par des militants qui savent qu'ils ne reviendront pas au PS, mais qui ne savent pas très bien encore où se situer. Et moi, avec bien d'autres, je veux les accompagner. Autour, au fond, je vais le simplifier, d'une idée qui me va, qui est comment on fait vivre la République laïque, nous l'évoquons sans doute, et sociale. Comment ce pays renoue pleinement avec son histoire, avec son récit national, ouvert, généreux, ouvert sur l'Europe et sur le monde, et en même temps, comment nous portons toujours au cœur cette belle idée de l'égalité, de la justice sociale, mais forcément avec des
politiques. Un parti politique.
Non, je pense que l'espace existe. Il y a des associations, il y a des think tanks qui sont créés, il y a des débats. Regardez, je vous le disais juste avant que nous commence l'émission, il y a tout ce débat dans la sociologie sur maintenant la dénonciation de la culture de l'excuse. Et avec des sociologues de très grande qualité comme Gérald Bronner ou Étienne Guin. C'est un débat que la revue Débat notamment porte. C'est des débats qui intéressent beaucoup la gauche. Donc avant de penser, non pas à créer un parti, je pense que la question n'est pas celle-ci, à voir comment on construit cet avenir. Pour certains, ils seront en marche, pour d'autres, ils ne le seront pas, pour d'autres, ils n'adhéreront pas à des formations politiques. Mais viendra le temps, d'ailleurs, des décisions avec les européennes et les élections locales. Moi, je veux participer à ce stade, en tout cas modestement, à ce...
Mais ça peut être dans le cadre de la République en marche.
Ça peut être dans le cadre de la République en marche, comme non. Il y a une certaine logique, au fond.
Vous n'avez pas encore décidé ?
Non, je ne l'ai pas encore décidé, parce que je pense qu'il faut prendre du temps. Voyez-y seulement le temps de la réflexion que je me donne. Je pense, par exemple, que sur l'Europe, l'idée qu'il y ait une grande formation politique, ou en tout cas le rassemblement...
Avec Alain Juppé, par exemple. Est-ce que vous pourriez vous retrouver avec Alain Juppé ?
À condition qu'on clarifie les choses. Mais que tous ceux qui défendent l'idée de l'Europe, de sa trajectoire historique, parce que l'histoire, elle peut être de nouveau tragique en Europe. D'une Europe qui s'appuie bien sûr sur le couple et la dynamique du couple franco-allemand. Et nous attendons bien sûr le dénouement de la crise politique, en tout cas des discussions pour un nouveau gouvernement en Allemagne. Et j'espère beaucoup que les sociodémocrates participeront à la responsabilité, à la stabilité qui doivent s'imposer. C'est leur choix avec Angela Merkel et sans doute avec les Verts. C'est important pour qu'il y ait de la confiance. Pourquoi ? Parce qu'on nous regarde partout dans le monde. L'Europe est le premier marché du monde. Ça reste une puissance économique et ça doit devenir une puissance.
Laurent Wauquiez dit ce matin, Manuel Valls, que c'est crois, un ramassis c'est... d'opportunistes,
oui,
ce gouvernement,
ça,
avec Olivier Dussopt qui
mots
a changé.
Qui viennent de la droite ou de la gauche,
direction.
Qui visent à blesser, à caricaturer, à disqualifier, sont insupportables. Ce que je pense que sur l'Europe, sur la place des femmes, sur l'idée qu'on se fait de la justice sociale, il faut aller plus loin. Moi, je pense, par exemple, que nous pouvons aller plus loin pour le pouvoir d'achat des classes moyennes et des couches
par
populaires.
Exemple...
Prenons des exemples. Que fait-on demain de la taxe d'habitation et de l'impôt local ? Que fait-on des minima sociaux pour répondre aux problèmes de pauvreté ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin sur le pouvoir d'achat, notamment de ceux qui travaillent ? C'est pour ça que je propose de nouveau la défiscalisation
des heures supplémentaires.
Supplémentaires.
Vous les souhaitez dans le prochain budget ou dès maintenant ?
Au cours de ce quinquennat, le plus vite possible, mais parce que je pense qu'il faut que la valeur travail reste, je crois que ça l'est dans l'esprit du président de la République comme du Premier ministre, une valeur que nous soutenions. Prenons le cas de la fiscalité locale. Le débat est ouvert. Je fais partie de ceux qui demandent, avec le maire d'Évry, Francis Choix, qui demandent la suppression totale de la taxe d'habitation.
Vous semblez avoir été entendu, puisque c'est dans le discours avant-hier du président.
À Évry, 90% des gens ne vont plus payer la taxe d'habitation. Pourquoi 10% la paieraient encore, alors que la moitié de la population, déjà, ne paye plus la taxe d'habitation.
Mais on sait que ça sera compensé par une nouvelle taxe, Manuel Valls.
Je pense qu'il faut...
Vous ne le pensez pas,
je pense
qu'il
faut pas, une banque fiscale. Il ne faut pas le financer par ce que vous appelez une nouvelle taxe ou un nouvel
impôt. Comment l'éviter ?
Il y a la compensation que l'État peut faire, 10 milliards pour ce qui concerne
la taxe d'habitation. Il en manque 8 si on exonère 20%
bout, absolument.
Des Français qui
Alors,
restent.
Alors, prenons par exemple ce que j'ai fait quand j'étais Premier ministre. J'ai affecté un point de TVA aux régions. Voilà. Certains réfléchissent, je l'avais aussi proposé, que pour ce qui concerne les départements, qui ont d'abord la responsabilité du social, je pense notamment à la lutte contre la pauvreté, mais aussi du handicap, mais aussi du grand âge, on puisse affecter, pourquoi pas, une part de la CSG.
Quand
et puis certains
affecter...
pensent que pour le bloc communal, commune et intercommunalité, on peut affecter, pourquoi pas, une part de l'impôt sur le revenu.
Ça
je n'ai jamais cru, moi, que
autant.
L'autonomie des collectivités était due à leur capacité à lever l'impôt. Mais voilà la réforme qui est engagée, elle prendra du temps, mais ça me paraît important et ça viendra soutenir davantage nos collectivités, les régions, les départements et le bloc communal. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faudra sans doute aller plus loin sur les responsabilités qu'on peut donner aux collectivités, parce que la réforme de l'État et de l'efficacité des services publics, elle passe en effet par de nouvelles responsabilités pour les collectivités.
Quand vous dites,
je pense
à
l'emploi.
Quand on dit on affecte une partie de la CSG, de la TVA, de l'impôt sur le revenu aux collectivités locales, c'est au détriment de l'État ou vous les augmentez ces impôts ?
Non, mais je pense qu'à partir du moment où les collectivités ont davantage de responsabilités, ce sont des responsabilités qui ne sont plus portées par l'État. Je pense à une responsabilité...
On enlève ses ressources à l'État.
Oui, mais qui portera moins de compétences ou de responsabilités. Je vais en prendre une. Enfin, c'est un débat qui s'ouvre sur la formation et l'apprentissage. Je fais partie de ceux qui pensent, ouvrons la réflexion, que Pôle emploi devrait être davantage déconcentré, pour ne pas dire décentralisé. Que des présidents de région comme Xavier Bertrand... Où le président de la région Grande-Aquitaine, Alain Rousset, ont déjà formulé ce type de proposition.
La CFDT est contre et dit qu'il risque d'y avoir une inégalité territoriale.
Mais c'est un débat. Ouais. Je fais partie de ceux qui considèrent et respectent.
Donc vous voulez davantage de décentralisation. En même temps, il y a eu des décisions qui ont été prises d'en haut. Hein, c'est ce que disent beaucoup d'élus, notamment sur les contrats aidés et la diminution du nombre de contrats aidés. Est-ce qu'à Évry, votre ancienne ville, dont vous êtes toujours le député, est-ce que dans cette ville-là, ça a impacté le fonctionnement de la ville ?
Non. D'abord, les emplois aidés n'ont pas disparu, parce que j'entends
mais
hier...
Mais c'est ce qui est prévu à terme.
Oui, mais d'abord, dans une économie qui va mieux, on peut espérer que dans le secteur privé, on n'ait pas besoin de ce type de contrat. Dans le secteur public, notamment pour aider un jeune... pour le monde associatif, pour les collectivités, dans le monde du handicap ou du grand âge. Oui, là, je pense qu'on a besoin encore de ce type de contrat. D'ailleurs, les emplois francs qui sont prévus dans le cadre de ce qu'on appelle la politique de la ville sont quand même dans la même philosophie. Voyez-vous, moi, je cherche sur tous ces sujets-là à être, puisque vous m'interrogez pour ce qui me concerne, à être utile, à considérer qu'il y a des nouveaux clivages, qu'il faut sortir des débats anciens, droite-gauche, des partis politiques qui d'ailleurs oublient, moi je n'oublie pas, qui oublient qu'ils ont été éliminés du second tour de l'élection présidentielle, à considérer que nous sommes à la fin d'un cycle pour la social-démocratie en France et en Europe, et qu'il faut construire une ou des forces politiques qui vont dans ce sens, donc, c'est-à-dire mettre en dynamique, mettre en mouvement la société française.
Globalement, vous adressez un satisfecit à Emmanuel Macron au bout de 6 mois de gouvernance, de pouvoir d'Emmanuel Macron.
Aucune réserve ?
Ça, je vous l'accorde, sinon je ne serais pas dans la majorité, je n'aurais pas
toujours,
voté.
Toujours, non, mais vous pouvez avoir quelques réserves, est-ce que vous en avez ?
Mais non, mais écoutez, dans bien des domaines, il fait des choses que j'aurais aimé faire parfois. Mm-hmm. Aller jusqu'au bout pour ce qui concerne la loi travail.
J'aurais aimé faire, ça veut dire qu'en fait, il va plus loin que vous.
Il a reçu un mandat du peuple.
Supprimer l'ISF, par exemple, vous l'auriez fait ?
Ça ne me pose pas de problème, je l'avais dit avant 2012.
Il faut aller jusqu'au bout, le supprimer complètement.
Et sortons de ces débats absurdes, de ces caricatures président des riches. Il y a un sujet qui me préoccupe, mais qui n'est pas dû à la politique d'Emmanuel Macron, qui est un problème qui est celui de notre pays. C'est celui des inégalités, telles qu'on les ressent et telles qu'elles sont vécues surtout par les Français. Inégalités territoriales, inégalités sociales, avec la reprise économique. Vous aurez beaucoup de gens qui vont avoir le sentiment d'être oubliés. La révolution digitale, la révolution du numérique pose aussi des problèmes majeurs. L'accès, pas seulement aux soins, tout le débat sur les déserts médicaux, mais l'accès, par exemple, à la bonne bouffe. Il y a un débat qui est ouvert sur la manière dont on produit, on consomme et on mange. Ce sont des débats tout à fait fondamentaux. Parce que je suis l'élu aussi d'un territoire où il y a le génopôle sur les sciences du vivant. Qu'est-ce qui se passe avec les conséquences de l'ADN ? Il y a débat qui va être ouvert grâce au rapport qui a été confié à Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça ? Parce que face à cela, je veux que, et c'est pour ça que je parle de république laïque et sociale, et c'est pour ça que je crois toujours à l'égalité, dans un moment de croissance, de réforme, il faut que tous les Français se sentent embarqués dans ce mouvement.
Alors, est-ce que vous pourriez aller plus loin, Manuel Valls, en rejoignant le gouvernement ? Certains anciens premiers sont redevenus ministres par la suite. Ce fut le cas d'Alain Juppé, qui redevint ministre des Affaires étrangères. Est-ce que vous pouvez envisager de rejoindre le gouvernement à un moment ou à un autre ? Est-ce que c'est un souhait ? Vous avez dit, dans Le Monde, il n'y a pas si longtemps que ça, que votre vie politique était loin d'être derrière vous.
Ah, si c'est dans Le Monde, c'est que c'est vrai.
Et vous le redites,
pas forcément.
Non. Dans Le Figaro,
aussi. Je vous parle de quelques sujets de fond.
Oui, mais est-ce que concrètement, vous pensez que, voilà, il y a un moment donné où vous avez envie de revenir aux manettes ?
Mais moi, j'ai eu la chance,
comme celui du ministère de l'Intérieur.
J'ai eu la chance, l'honneur de gouverner pendant près de 5 ans, des responsabilités importantes, et dans un moment particulièrement difficile. Et je veux la réussite du président de la République, dont je pense qu'il porte toujours 3 éléments de force, que sont l'incarnation, parce que ce pays mérite d'être incarné. C'est un beau pays, et il mérite d'être incarné, par un président jeune aujourd'hui. Mais il doit être incarné, avec force. Et la parole de la France, j'ai toujours considéré qu'elle était importante. Il porte le mouvement des réformes, et ça me paraît essentiel. Et ce mouvement de réformes doit se poursuivre, avec en même temps la volonté de répondre encore une fois à l'attente des Français en matière de justice sociale ou pouvoir d'achat, et puis le dépassement des vieux clivages politiques.
Donc vous pourriez être son ministre.
Mais ce n'est pas le sujet.
En vous entendant, Manuel Valls,
aujourd'hui, je me sens utile dans le débat d'idées. Je veux notamment, parce que ça n'est peut-être pas assez porté, toujours incarner cette république laïque, cette volonté d'égalité, la lutte contre les communautarismes, et parce que je veux que la gauche s'éloigne de tous ceux qui sont dans la complaisance par rapport, par exemple, avec l'islam politique, et je veux incarner cela, ça n'est peut-être pas assez porté, mais moi je me sens utile aujourd'hui.
Vous échangez
dans le débat
avec le président Macron ?
On échange, je veux être utile dans le débat public, je veux être utile au président de la République comme à la majorité. Pour le reste, c'est tout à fait...
Est-ce qu'il vous l'a proposé, là, récemment, d'entrer au gouvernement ?
Non, pas
dans
du
ce
tout.
Remaniement
mais non,
qu'il a pu avoir.
Écoutez, non. Ça fait 6 mois qu'il a été élu président de la République. Ça fait maintenant presque 1 an que j'ai quitté Matignon pour être candidat à une primaire qui ne s'est pas bien terminée, pas seulement pour moi, mais d'une manière générale, pour le Parti Socialiste et pour la gauche. Vous pensez que mon obsession, ça serait d'être au gouvernement ? Non. Pas du
est-ce
tout.
Est-ce que lui peut en avoir l'idée, vous pensez, ou est-ce qu'Emmanuel Macron est loin de
ça ? Mais il a un gouvernement avec des ministres. Mais il a un gouvernement avec des ministres qui travaillent bien. Ça n'est absolument pas à l'ordre du jour. Mais je veux continuer à être utile à la France. Et on peut l'être de beaucoup de manières. Et je le suis de manière apaisée et en même temps pugnace, parce que les deux sont possibles. On peut être apaisé et pugnace.
Alors on en parlera aussi dans la seconde partie. Mais Marie-Pierre Haddad nous a rejoint. Bonjour, de la rédaction numérique de RTL, pour des premières réactions et commentaires sur Twitter. Il y a beaucoup de réactions, surtout défavorables à votre rencontre.
C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour Manuel Valls.
C'est rare sur Twitter d'avoir des relations, des réactions.
C'est vrai que vous clivez beaucoup, Manuel Valls. Mais on
très
va
en parler. Pourquoi j'ai clivé dans cette première partie
du débat? Non, mais on va peut-être voir, justement.
Sur Facebook, Johan essaye de vous cerner. Donc, pour lui, vous prenez une politique économique de l'offre, une défense d'une vision de la laïcité qui va largement, d'après lui, au-delà de la loi de 1905. Vous avez été en faveur de l'état d'urgence et il vous demande, est-ce que vous êtes toujours de gauche au final?
Je vous confirme que je suis favorable, même si c'est des débats un peu techniques, à une politique de l'offre, à une politique qui crée de la richesse et qui crée de l'emploi pour lutter contre le chômage, sans oublier ceux qui sont en très grande difficulté. C'est pour ça que je suis toujours favorable à un revenu minimum d'essence que proposait Chirac et la Fondation Terra Nova, que j'avais
et
proposé
Benoît
il y a quelques mois. C'est un peu différent.
Mais c'est un revenu universel, Manuel Valls.
Non, c'est la fusion. C'est la fusion des minima sociaux aujourd'hui. Et c'est de gagner en efficacité dans la lutte contre la pauvreté et le retour à l'emploi. Et je me félicite, comme nous l'avions fait avec le département de la Gironde, que d'autres départements aujourd'hui, présidés par des socialistes, mais ça peut concerner d'autres, puissent expérimenter la fusion des minima
sociaux.
Alors,
vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous êtes toujours de gauche ou est-ce que vous êtes et de gauche et de droite, comme Emmanuel Macron ?
Mais je n'ai pas changé. Je suis forcément de gauche, non sectaire, et je me trouve bien dans une majorité qui prend des talents qui viennent de gauche et de droite et qui participent au redressement du pays. Il y a quelque chose qui me supporte, bon, pas dans votre questionnement, mais dans la réaction, c'est le sectarisme. L'état d'urgence, lutter contre le terrorisme, répondre à l'attaque terroriste que nous avons subie le 13 novembre au Bataclan, sur les terrasses ou au Stade de France, ça serait de droite ou de gauche. Mais enfin, où sommes-nous, ou une partie de la gauche qui pense que l'état d'urgence ou que les lois antiterroristes ou la loi renseignement que j'ai portée ont mis en cause les libertés publiques? Mais enfin, ça ne tient pas la route. Et j'ai voté la loi d'ailleurs, sortant de l'état d'urgence, parce qu'elle intègre cette loi dans le droit commun bien des aspects de l'état d'urgence. Et quant à ma vision de la laïcité,
on va en parler très longuement dans la seconde partie de l'émission.
Clémenceau, qui a subi à peu près le même procès, sans me comparer avec lui, était un grand républicain, était un homme de gauche.
On en parlera dans la seconde partie. Une autre question.
Oui, j'ai sélectionné des commentaires sur vos propos, justement, sur le remaniement. On a Benito qui qualifie Christophe Castaner maintenant de cumulard.
Castaner qui donc garde les relations avec le Parlement tout en étant patron
délégué
de la
général de la République En Marche. Et pour Patrick, c'est la moralisation version Macron. Et donc, selon vous, est-ce que ces deux postes tenus par Christophe Castaner ne sont pas incompatibles?
Non, je ne le crois pas. Mais l'avantage de ma fonction, de ma position aujourd'hui, c'est que je ne me sens pas obligé de commenter au jour le jour, comme tous les autres, les mêmes commentaires. Ce choix a été fait par le président de la République pour Christophe Castaner, qui est incontestablement bien dans les deux responsabilités. C'est son choix, c'est leur choix. Je n'ai pas besoin d'apporter plus de commentaires. Mais en revanche, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'entrée d'Olivier Dussopt au gouvernement, accompagné de tous les commentaires d'un sectarisme qui tue et qui a tué.
Mais vous
la
avez
gauche.
Vu un signal en votre dans votre sens avec cette nomination d'Olivier Dussopt? Est-ce que vous êtes dit, c'est voilà, quelque part, on m'adoube aussi complètement dans la République en Marche.
Vous pensez que je suis dans cette obsession de voir dans chaque geste du président de la République ou du Premier ministre, avec qui j'ai aussi d'excellentes relations, un message qui me serait adressé? Non.
Pas de message subliminaux.
Non, c'est bien de montrer que à gauche comme à droite, il y a des hommes, des femmes de talent et qui veulent participer au gouvernement de la France. Et quand je vois les commentaires à propos d'Olivier Dussopt, je me dis que ce dernier a bien eu raison. Et puis participer au gouvernement de la France, dans cette période-là, c'est un honneur et il sera à la hauteur.
On continue à en parler dans la seconde partie de l'émission. Le grand jury de Manuel Valls, c'est tout de suite après une première pause. A tout de suite.
Du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Manuel Valls, ancien Premier ministre, député de l'Essonne. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Christophe Jacubicine et Guillaume Roquette du Figaro. Manuel Valls, vous avez entamé un combat pour la laïcité contre l'islamo-gauchisme. C'est comme ça que vous appelez ceux qui, selon vous, défendent le fondamentalisme islamiste. Guillaume Roquette, beaucoup de questions et de réactions.
Oui, à votre déclaration de cette semaine dans un débat à Barcelone, où vous avez parlé dans la société française d'un problème de l'islam, des musulmans. Ça a suscité des réactions très, très vives, notamment celle de Dalil Boubaker, le recteur de la mosquée de Paris, parlant de propos inadmissibles. Pourquoi avez-vous parlé d'islam et pas d'islamisme pour dénoncer ce problème ?
dans un débat organisé par le journal El País, parce qu'il faut être précis sur l'apport de l'Espagne et de ces 40 dernières années dans la démocratie, où nous étions invités plusieurs, j'ai évoqué les crises identitaires dans chacun des pays, et pour montrer aussi la montée des populismes. Et dans les critiques qui me sont apportées, je vois bien tous ceux qui refusent de voir que parler d'un problème de l'islam dans la société, ce n'est pas dire que l'islam ou les musulmans, en tant que tels, poseraient un problème à cette société. Je veux dire, tous les jours, nous évoquons les questions, vous évoquez d'ailleurs, les questions qui sont posées par des prières de rue, par des revendications vestimentaires ou alimentaires.
Parce qu'elles sont souvent extrémistes, ces revendications, mais vous parlez d'islam en général.
Pas seulement sur l'organisation de l'islam dans notre société, parce que je pense qu'il y a un défi qui est posé à nos sociétés. Comment faire en sorte que l'islam soit pleinement compatible?
Une religion qui porte un défi particulier.
Oui, je le crois, oui, parce qu'elle est récente dans notre pays par rapport aux autres cultes, parce qu'elle est récente, elle s'est installée au cours de ces dernières décennies, essentiellement, bien sûr, parce qu'elle elle a elle-même ses défis affrontés en France et en Europe par rapport à l'islamisme, nous y venons, et par rapport à l'islam politique. Et je pense que nous devons aider l'islam et les musulmans à extirper de leur sein, parce que ça n'est pas à l'extérieur de l'islam, de leur sein, l'islamisme qui combat l'islam, qui est responsable des attentats, comme malheureusement vient de le démontrer, cet attentat effrayant dans le Nord Sinaï qui a touché la mosquée Al-Wahda, oui, et qui a tué 305 personnes, fait des centaines de blessés. Et nous savons que c'est l'islamisme, que c'est l'islam politique qui s'appuie sur les frères musulmans et les salafistes, que c'est l'islamisme avec sa dérive la plus terrible, le djihadisme, le terrorisme.
Donc vous ne regrettez rien, Manuel Valls? En même temps, je complète les propos de Dalil Boubekeur. Des propos inadmissibles, similaires à ceux de l'extrême droite, qui vous accuse d'attiser la division et de chercher la lumière. Mais c'est quand même Dalil Boubekeur, un de vos anciens interlocuteurs quand vous étiez à Matignon.
Critiquer l'islamisme, critiquer l'islam politique, critiquer l'influence des frères musulmans ou des salafistes, c'est critiquer tous les musulmans. Si c'est cela, alors il n'y a plus de débat.
Vous nous dites que tout ça est au sein de l'islam, alors que Dalil Boubekeur dit que c'est pas au sein de l'islam.
Tout ça est commis au nom de l'islam. Les frères musulmans, l'UEIF dans notre pays, les salafistes, il y en a en France comme il y en a dans tous les pays aussi européens ou dans les pays arabo-musulmans. Ce sont des réalités. La pression qu'ils exercent, le fait que d'une certaine manière, ils aient imposé leurs mots, leur langage, leur attitude, leur agenda politique. Tout cela existe ou n'existe pas.
Oui, mais en disant le problème de l'islam, Manuel Valls, vous stigmatisez l'ensemble des musulmans. C'est ce qu'entend cette communauté. Est-ce que vous ne craignez pas cet amalgame-là?
Et pour préciser la question, est-ce que vous êtes en désaccord avec l'essentiel de la classe politique qui dit l'islamisme, ça n'a rien à voir avec l'islam?
D'abord, je ça a à voir avec l'islam. Parce que c'est relisez le magnifique édito de Rice, le directeur de Charlie Hebdo, cet été après l'attentat de Barcelone. Dire, comme parfois nous l'avons dit, avec de bonnes intentions, je l'ai fait
pour
aussi.
Apaiser.
Je l'ai fait pour apaiser, pour en effet dire, et c'est vrai, que l'immense majorité de nos compatriotes musulmans n'ont rien à voir avec le terrorisme. Rappeler que l'islamisme, que le terrorisme tue d'abord peut-être dans le monde, d'abord les musulmans, comme nous venons de le voir en Égypte. Sans oublier qu'il s'en prend aux juifs, aux chrétiens d'Orient, aux coptes en Égypte, aux yézidis et à tous les autres musulmans quand on n'est pas d'accord avec leur doctrine, et leur idéologie totalitaire. Mais dire que ça n'a rien à voir, c'est déresponsabiliser l'islam. L'islam a besoin de notre soutien pour lutter contre l'islamisme, contre les frères musulmans ou contre le salafisme qui gangrènent l'islam. Si nous voulons créer cet islam des Lumières en France et en Europe, celui de Benzine Rachid qui vient d'écrire avec le rabbin Delphine Orvillère un livre tout à fait extraordinaire. Si nous voulons répondre à l'attente d'un Abdelour Bidar qui vient de commettre deux belles tribunes dans Le Monde et dans Libération, appelant à cet islam des Lumières, à la création de chaires d'islam dans nos universités, précisément pour créer ces conditions, pour faire en sorte qu'il y ait des intellectuels, des théologiens, cet islam des Lumières. Si nous ne leur répondons pas, alors c'est l'islam des ténèbres qui va l'emporter.
Vous comprenez...
Et arrêtons,
de l'ensemble, quasiment de la classe politique.
Y compris du Front National qui dit, Valéran de Saint-Just, il n'y a pas un problème des musulmans.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir raison contre tous ?
Non, mais je pense que depuis plusieurs années, j'ai raison, en effet, sur bien des sujets. Prenons ces sujets. Quand je me suis attaqué à Dieudonné, j'avais raison ou j'avais pas raison ?
Sauf que vous avez joué aujourd'hui.
Il y a 8000 personnes pour le voir.
Et alors, ça veut dire que c'est une bonne chose ?
Est-ce que vous ne lui avez pas fait un peu de publicité ?
Ah bon ?
Ils sont 8000 à Marseille et on n'interdit pas le spectacle.
En voulant interdire, il y a presque 4 ans, c'est...
Eh bien, je pense que ce combat doit être poursuivi.
Spectacle.
Il a été condamné en France ou en Belgique pour des propos racistes, antisémites incitant à la haine, et on devrait croiser les bras. 8000 personnes qui vont au Dôme de Marseille, 8000 personnes qui vont au Dôme de Marseille en toute conscience applaudir un raciste et un antisémitisme.
Alors le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut.
Je pense qu'il faut agir avec plus de force. Quand j'ai dit, c'est pas le sujet, surtout face à un sujet aussi important, il faut continuer et amplifier ce combat.
Le gouvernement quand n'a pas référé liberté sur le spectacle de Marseille comme vous l'aviez fait vous à l'époque.
Il aurait peut-être fallu le faire. Quand j'ai dénoncé, avec bien d'autres, la montée de l'antisémitisme, l'absence de réaction de la société par rapport à des faits qui ont été commis au début des années 2000, l'absence de réaction après l'assassinat d'Ilham Halimi, l'absence de réaction quand on a hurlé en 2014 dans une manifestation de soutien au Hamas, mort aux Juifs, l'absence de réaction malgré tout au moment de la tuerie de l'école de Toulouse. Il a fallu attendre janvier 2015, Charlie et l'hypercachère pour qu'il y ait une prise de conscience de ce qui était en train de se passer. J'avais raison ou j'avais pas raison ? Je suis d'extrême droite, fasciste.
C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, il dit vous êtes entré dans une logique dangereuse pour le pays, vous poussez à la guerre contre une religion, c'est une position d'extrême droite.
Je suis enfant de DA quand je dénonce le racisme, l'antisémitisme, les propos de Dieudonné, quand, oui, en effet, je mets les mots, comme je l'ai fait dans mon discours à l'Assemblée nationale en janvier 2015, sur la guerre que nous connaissons, sur la guerre que nous mène cette idéologie totalitaire qu'est l'islamisme. Je mets les mots en républicain, en homme de gauche, convaincu que la démocratie est la seule réponse possible, que le dialogue entre les religions est la seule réponse possible. C'est aussi ma pratique d'ancien maire d'Evry, d'élu, parce que j'ai eu la chance sur mon territoire, c'est ce que je disais encore dans une tribune sur la laïcité que j'ai publiée cette semaine, parce que j'ai eu la chance d'avoir une cathédrale, une pagode, une grande mosquée, une petite synagogue qui, avec des hommes qui ont dialogué entre eux.
Oui,
c'est cette pratique-là.
Vous l'avez dit, Manuel,
je continuerai de le dire, je ne me tairai pas sur ce sujet.
Quand vous dites que vous allez faire rendre gorge à Mediapart parce qu'ils ils symbolisent l'islamo-gauchisme, est-ce que c'est républicain de vouloir faire rendre gorge à un média ?
Dans un débat, il faut accepter quand même, c'est quoi, c'est prudence. Rendre gorge, c'est faire recracher les insultes qu'on vous jette au visage. Voilà la définition exacte. Pardon, excusez-moi.
Ce mot-là, vous ne le regrettez pas,
non.
Par exemple ?
Non, parce que moi, je veux bien un débat sur les mots. Qu'est-ce qui s'est passé, tout de même ? Parce que, alors, prenons quelques secondes. Je vois bien le débat sur les mots. Ouh, Manuel Valls, il va trop loin. Et puis, vous avez donc tout à coup les prudes. Les tartuffes. Moi, je ne suis ni Charlie, ni Plenel, ou Mediapart. Je ne suis ni Valls, ni Mediapart. Je ne suis ni Valls, ni Mélenchon.
C'est ce que disent les représentants du gouvernement aujourd'hui,
qui
ne veut pas prendre parti.
C'est-à-dire, on ne prend pas position. Et Louis Plenel, dans des propos qu'il a tenus sur France Info, a lancé un véritable appel au meurtre, à l'égard de Charlie Hebdo, ou à mon égard. Quand on vous cible comme anti-musulman, ou menant la guerre aux musulmans, on vous cible. Et c'est particulièrement dangereux. Et dans l'autre éditorial, Doris, parce que moi, je resterai Charlie Hebdo, même si on n'est pas toujours d'accord, je resterai fondamentalement Charlie Hebdo, parce que j'ai été marqué, parce que la France et les Français ont été marqués par ce qui s'est passé en janvier 2015.
Mais à vous entendre, que le gouvernement ne fait pas suffisamment, Manuel Valls. Et notamment, prenons un exemple très concret, l'Observatoire de laïcité. Il est présidé aujourd'hui par Jean-Louis Bianco, qui dit, je crois que le principal problème de Manuel Valls, c'est Manuel Valls. La laïcité, ce n'est pas une religion, ça n'a donc pas besoin d'un pape, et encore moins d'un pape autoproclamé. Il a été reconduit récemment, Guillaume Roquet.
Eh ben, je l'ai regretté.
Et vous pensez qu'il devrait quand même...
Je pense que le débat, qui est un débat de vie ou de mort quand on parle du terrorisme, quand vous avez la complaisance d'une partie de la gauche intellectuelle et politique avec les frères musulmans, c'est-à-dire avec Tariq Ramadan, pas avec les derniers faits, avec ce qu'il dit depuis des années. Je rappelle sans cesse que j'ai écrit en 2003 une tribune avec Vincent Peillon et Jean-Luc Mélenchon pour dénoncer l'antisémitisme de Tariq Ramadan.
Quand vous avez à la tête de l'Observatoire de la laïcité,
quand vous avez ce qui se passe, c'est pas l'Observatoire de la laïcité qui a dénoncé ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis avec l'organisation d'ateliers racialisés par le syndicat Sud 93 sans que le syndicat Sud mette en cause l'action de son syndicat départemental. Ça n'est pas l'Observatoire de la laïcité. Qui par ailleurs discute et organise des colloques avec l'association Coexister ou avec le CCIF. Il faut que des militants du printemps républicain, des militants laïcs, ou des militants comme Gilles Clavreul, qui est ici, dénoncent ce qui se passe dans des universités. Hier, c'était à Lyon, aujourd'hui à Limoges.
Alors,
quand vous avez
travail,
des personnalités... Quand vous avez... Mais je crois qu'en effet, Jean-Louis Bianco n'est pas à la hauteur de la situation.
C'est
un homme tout à fait estimable, que je connais depuis des années. Mais quand on laisse, en effet, des personnalités comme Ouria Boudjella, dont on connaît la camarade, entre guillemets, d'une députée de la France insoumise...
Daniel Obono.
Cette personnalité qui est, Ouria Boudjella, antisémite, participer à des colloques universitaires. Et quand on ne s'émeut pas de ce qui se passe dans un certain nombre de pratiques, on l'a vu en Seine-Saint-Denis, je pense qu'en effet, le combat, avec force, mérite d'être mené. Et parce que nous le menons à quelques-uns, et parce que je le mène, et que d'une certaine manière, sur la scène politique, en tout cas, je l'incarne, avec Gilles Clavreul, avec Elisabeth Banater, avec Caroline Fourest pour ce qui concerne des intellectuels
pourquoi,
de gauche ou des personnalités de gauche.
Pourquoi, Manuel Valls, selon vous, pourquoi n'y a-t-il pas une prise de parole forte du président de la République sur ce sujet, comme il y en a sur d'autres, que par exemple les violences faites aux femmes?
Elle viendra. J'espère qu'elle viendra. Il y a une très belle citation qu'on m'a donnée tout à l'heure de Winston Churchill.
On dit qu'il devrait faire un discours. Est-ce que vous en êtes informé pour l'anniversaire de 1905
dans la presse, le 9 novembre est une belle date, mais il n'y a pas d'injonction de ma part, c'est à lui de choisir.
Mais vous le souhaitez.
Elle viendra.
Vous l'espérez.
Il y a une très belle citation de Winston Churchill qui peut résumer un peu le débat. Il disait, pas en pensant à un autre débat, qu'un partisan de la politique d'apaisement, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant être le dernier mangé. Moi, je suis pour l'apaisement. Et je pense que la laïcité, c'est un bouclier. Que la loi de 1905, c'est une loi de concorde. Mais l'apaisement, ça ne peut pas être au détriment des idées. Ça ne peut pas être au détriment du rôle de la République ou de la laïcité. Et dans l'apaisement et dans le renvoi, insupportable, dos à dos, de Charlie Hebdo et de Mediapart. Charlie Hebdo, il y a eu des morts. Et pourquoi il y a eu des morts? Parce que c'était des dessinateurs, des journalistes qui caricaturaient, qui ont été menacés. On n'a pas pris suffisamment au sérieux peut-être ces menaces.
Ce sont aussi des positions qui vous opposent à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez l'impression que Jean-Luc Mélenchon...
Non, ne réduisez pas ça, Benjamin Sportouche.
Est-ce que vous avez l'impression que Jean-Luc Mélenchon favorise, ou en tout cas n'empêche pas, au sein de son parti, des propos antisémites en gardant en son sein Daniel Obono, par exemple, ou pas, que vous venez de viser? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'est pas dans ce combat contre l'antisémitisme, Jean-Luc Mélenchon?
Il est prisonnier des personnalités de sa formation politique. Il est prisonnier des positions qui sont les siennes. Il est prisonnier, sans doute, de ses propres logiques électorales. Je l'ai vécu dans ma circonscription, la première de l'Essonne.
Il dit que c'est vous qui êtes prisonnier de ça, parce que vous allez être invalidé dans votre circonscription. C'est une erreur?
C'est le Conseil constitutionnel qui décide. Il décidera dans quelques jours ou dans quelques semaines.
Mais vous êtes confiant?
Mais je suis totalement confiant. Il n'y a rien. Mais on verra. C'est au Conseil constitutionnel de décider. Et moi, je respecte les instances, notamment celles-ci, qui fondent l'État de droit.
Donc il y a une dérive communautariste et électoraliste chez Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vous nous dites.
Bien évidemment. Et donc, il y a une complaisance. C'est quand... En janvier 2015, j'ai parlé des gauches irréconciliables. Janvier 2016, j'ai parlé des gauches irréconciliables. Je ne pensais pas à l'économie. Je pensais à Jean-Luc Mélenchon, qui avait déjà dit que François Hollande, c'était pire que Nicolas Sarkozy. Il y a pire comme insulte. Que moi, j'étais pire que Le Pen. et j'avais déjà pensé à la dérive qu'incarnait par exemple Clémentine Autain dans ses discussions avec Tarek Ramadan. Vous pensez que ce n'est pas des sujets, ce ne sont pas des petits sujets, ce n'est pas de la petite politique, ce n'est pas un problème de positionnement, ce sont des sujets fondamentaux pour l'avenir de la France et de la République. Et tout cela, je le fais au nom de l'idée que je me fais de la France et de la République, mais je le fais aussi pour protéger mes compatriotes de confession ou de culture musulmane. Et puis, vous savez, je ne supporte pas, je n'accepte pas, même si je le cuire épais, ces attaques qui consistent à vous disqualifier en vous traitant de fasciste ou venant de l'extrême droite.
On a très peu de temps avant la fin de l'émission.
J'irai jusqu'au bout. J'étais bouleversé hier. Et je le conseille à chacun d'aller voir au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées cette performance d'un acteur de cette nouvelle génération que nous avons la chance d'avoir, Raphaël Personnaz, qui lit les mots de celui qui a perdu sa femme au Bataclan, Léris, et qui dit des mots d'une manière extraordinaire sur la manière dont on peut lutter contre le sentiment de haine. Chez moi, il n'y a aucune haine. Il y a une conviction, c'est qu'il faut rassembler. Mais il faut rassembler la société française sur des bases claires. Et la République et la laïcité permettent ces bases claires.
Christophe Jacubizy.
Justement, puisqu'on parle de laïcité, d'autres sujets, les crèches de Noël que certaines mairies veulent maintenir, est-ce qu'au nom de cette vision de la laïcité que vous défendez, on ne doit pas mélanger les genres et qu'effectivement elle doit être exclue ou pas du domaine public ?
D'abord, ne mélangeons pas les genres. Parce qu'on ne parle pas que de laïcité dans la discussion que nous venons d'avoir. On parle de terrorisme, d'islamisme...
Il y a des choses concrètes sur les crèches.
Non, mais je le dis aussi parce qu'on parle d'islamisme politique, on parle de mise en cause de l'intégrité des femmes et d'une attaque, d'une violence...
Oui, mais certains disent qu'il y a un deux poids, deux mesures dans cette société ou pas.
Pour le moment, je le dis parce que quand on en parle, par exemple avec Caroline Forest, qui a été l'une de celles qui a mené des combats contre l'extrême droite, identitaire, l'ultra-catholicisme, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ce côté-là. Mais ne mélangeons pas les choses. Après, il y a la loi.
Oui.
La loi et le tribunal administratif, le Conseil d'État, la loi... prennent un certain nombre de décisions. Il y a eu des décisions qui ont été prises concernant les crèches dans les mairies ou dans les hôtels de région. Il faut tout simplement respecter cette loi.
Donc vous souhaitez qu'il n'y en ait pas. Est-ce que vous pensez...
Qu'on respecte la loi, et notamment la loi de 1905. Là aussi, avec force et tranquillité.
Manuel Valls, le président de la République vient d'accepter le titre de chanoine du Latran. Il devrait aller au Vatican se faire remettre cette distinction-là, honorifique. François Bayrou dit qu'il ne devrait pas le faire. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y va de la laïcité complète, rigoureuse, telle que vous la définissez ?
Vous savez, la France est un pays aux racines chrétiennes, qui a connu la confrontation des guerres de religion entre catholiques et protestants. Ça a beaucoup coûté à notre pays. L'islam est la deuxième religion de notre pays. La communauté juive est l'une des plus anciennes d'Europe. Est profondément attachée à ce que nous sommes. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme, et donc c'est-à-dire d'un message universel au pays, et de la séparation des cultes avec l'État. C'est tout cela, la France. Et donc un chef de l'État, mais même un responsable politique, en étant très au clair sur ce que nous sommes, doit aussi tenir compte de ces
donc
traditions.
Donc il peut aller chercher cette
distinction. Mais moi-même, ça m'a été reproché, parfois par mes amis laïcs, je suis allé aussi à des béatifications et à des canonisations au Vatican. Est-ce que ça mettait en cause profondément la laïcité ? Alors on nous dit deux poids, deux mesures. Non, pas deux poids, deux mesures. Il faut appliquer la loi, tout simplement. Je n'ai pas l'impression que le président de la République va commettre une entorse par rapport à la loi.
Marie-Pierre Haddad nous a rejoint à nouveau pour des réactions d'auditeurs et téléspectateurs.
Oui, on a eu beaucoup de réactions justement sur vos propos sur la laïcité. Et malgré tout ce que vous avez dit sur Facebook, Chris ne comprend pas et il veut savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas tenu ce genre de discours lorsque vous étiez à l'intérieur ou à Matignon, au ministère de l'Intérieur ou à Matignon.
J'ai tenu toujours ces discours. Je ne sais pas de quel discours il parle, mais je renverrai toujours, parce que pour moi, ça a été évidemment un moment...
Ce que vous avez dit sur le problème de l'islam
important,
et des musulmans, pas avec ces termes-là.
Le 13 janvier 2015, à l'Assemblée nationale, j'ai dit.
C'est le combat de votre
pays. J'ai dit, la France, sans les Français juifs, ne sera plus la France. Et j'ai dit, parce qu'un de mes meilleurs amis me l'avait dit, je ne veux pas que dans mon pays, un musulman dise avoir honte parce qu'on a commis au nom de l'islam des attentats épouvantables. Et c'est ma ligne de conduite. Oui, vous avez raison. C'est le combat de ma vie. Parce que c'est un combat qui nous transcende tous. qui va au-delà des petits débats politiques. Donc oui, le combat pour ce qu'est la France, pour ce qu'est la République, pour le dialogue, bien sûr, et toujours dans le dialogue, pour l'apaisement et la place de chacun dans la société, mais sur des bases claires.
Et est-ce que quand vous voyez Gérard Filoche exclu du PS, vous vous dites que ça va dans le bon sens pour vous ?
Encore heureusement, ça a pris moins de temps que pour Olivier Dussopt. Mais non, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision, il fallait le faire pour d'autres raisons. Je pense qu'il aurait fallu le faire avant. Filoche avait eu des propos indignes, insupportables, après la mort de Christophe de Margerie, le président, le PDG de Total, je l'avais dit, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Mais là, évidemment, le Parti socialiste a fait le choix qui s'impose.
Une autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, j'ai sélectionné la question de Christophe, qui, lui, a vraiment peur quand il vous entend parler. Et il veut savoir pourquoi est-ce que vous avez cet entêtement à monter les Français les uns contre les autres. C'est comme ça qu'il
est. Mais c'est le contraire. Vous choisissez bien vos tweets, mais c'est le contraire. C'est le contraire.
Il y en a beaucoup de cette nature, Manuel Valls.
Oui, mais c'est le contraire. Mais d'abord, sur la blogosphère, franchement, c'est d'ailleurs un problème, l'appel à la haine permanent et au meurtre sur...
Vous êtes visé, votre sécurité a dû être renforcée depuis...
Moi, je ne parle jamais de ces questions-là. Mais il y a des gens où leur sécurité, elle est renforcée aujourd'hui. Toute l'équipe de Charlie Hebdo, après ce qui s'est passé. Cette femme qui a dénoncé Tariq Ramadan, à cause de la haine qui se déverse sur Internet et sur la blogosphère, comme on dit. Je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut lever l'anonymat quand il s'agit d'appels au meurtre, au racisme et à l'antisémitisme. Ça ne peut plus durer. Donc, étant victime très tranquille, de cette violence, je ne réagis pas à cela. C'est le contraire. Mais le dialogue... Le dialogue entre les Français, il ne peut se faire que sur des bases claires.
D'un mot,
ces bases claires,
Manuel
Valls, je veux plus que jamais
porter. Mais c'est important. Notre-Dame-des-Landes, cette semaine, il va y avoir un rapport rendu par des experts. Est-ce que vous dites qu'il faut arrêter les frais, cet aéroport, on n'en a pas besoin, vraiment? Est-ce qu'il faut arrêter l'opération Notre-Dame-des-Landes?
D'abord, il y a un rapport. Attendons
les conclusions. Mais votre sentiment, votre conviction?
Ma conviction, c'est qu'il y a eu le vote des habitants du département de la Loire-Atlantique, qu'on a besoin d'un nouvel aéroport et que je ne change pas d'avis sur ce sujet-là. Et que d'une certaine manière, l'autorité de l'État est engagée. Mais,
ce qui voudra dire peut-être une démission à la clé de Nicolas Hulot, puisque pour lui c'était ignorant. Nous verrons.
C'est pas mon but.
D'accord, nous verrons, on l'avait entendu. Merci Manuel Valls, merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche, très belle semaine et à la semaine prochaine.